j'ai la chance d'avoir le cou tordu depuis hier. Et donc ce matin en me réveillant, je disais que c'était pour éprouver le corps douloureux que j'avais dû avoir cette épreuve. Bon. Et donc, alors, l'association Captifs la Libération, pour dire deux mots, donc, est une association qui a été créée par le père Patrick Giros, prêtre du diocèse de Paris, en 1981. Patrick a accompagné l'association jusqu'en 2002, quand il date avec elle est mort brutalement. Et à sa mort, le cardinal Lustiger a veillé à ce que l'association poursuive son travail auprès des personnes de la rue, personnes sans abri et personnes prostituées, tout particulièrement à Paris. Et depuis l'année dernière, on commence à ouvrir en province. Donc on a commencé à Bordeaux. Et ça pourrait peut-être continuer ailleurs, en tout cas on y travaille. Notre activité consiste d'abord à aller rencontrer les personnes dans la rue. On fait une cinquantaine de tournées rues par semaine, par binôme. Et ensuite, pour les gens qui le souhaitent, ils peuvent venir dans les antennes qui sont installées dans les paroisses, pour un accueil inconditionnel et pour des temps où on va d'abord s'occuper de leur proposer de pouvoir vivre en tant que personne dans toutes les dimensions de leur personne. C'est-à-dire qu'on va les emmener au cinéma, on va faire du foot, on va apprendre du français dans l'étranger, on va aussi apprendre à faire des démarches sur Internet, on va faire de l'art. Et puis on va aller faire des. Et puis on a des prières rues dans toutes les paroisses où on est une fois par mois. Une prière rue, c'est une prière auquel les gens de la rue sont invités à venir prier avec les paroissiens, dans l'église. Et puis on peut aussi faire des séjours. C'est ainsi qu'on a fait un séjour extraordinaire à Rome début novembre pour aller à la rencontre du pape. Et quand les gens, à un moment, les gens nous disent qu'ils émettent un désir d'un projet de vie plus particulier, à ce moment-là, on va travailler à exprimer ce projet de vie et on va travailler en collaboration avec d'autres associations pour qu'ils puissent mettre en œuvre leur projet de vie. Et dans le cadre de l'élaboration de ce projet de vie, on a trois programmes particuliers. Un de colocation solidaire de bénévoles avec des personnes de la rue. On a un lieu d'hébergement avec 21 personnes de la rue et 11 bénévoles. Et on a un programme spécifique pour les personnes dépendantes alcooliques qui sont dans la rue et un programme spécifique pour les malades mentaux qui sont dans la rue. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'abord de vous dire quels sont les corps souffrants que nous rencontrons, parce que quand on parle de la souffrance, on n'a peut-être plus l'habitude de penser à la souffrance d'une malade. C'est la première qui vient à l'esprit. Et moi, je vais vous parler de la souffrance des personnes de la rue et des personnes prostituées, donc je vais vous dire un peu plus de quelle souffrance il s'agit. Quelle est la rencontre qu'on vit? Parce que je vous ai dit qu'on a la rencontre des personnes dans la vie d'une manière particulière. Et c'est un point très, très important, je pense. Et in fine, je vous dirai un petit peu quelles expériences j'en tire sur qu'est-ce que cette rencontre du corps souffrant peut me dire de Dieu, peut me dire de moi-même. Alors, quels sont les corps souffrants que nous rencontrons aux captifs? Pour les personnes sans abri, pour vous donner... quelques chiffres. Alors, je vous donne les chiffres, ils sont surtout sur Paris, mais je pense que ça vous donne les ordres de grandeur. Vous avez 35% des malades, des personnes dans la rue qui sont des malades psy. Alors, est-ce que c'est la rue qui a causé les choses ou est-ce que c'est la maladie psy qui a conduit à la rue? En général, c'est la maladie psy qui a conduit à la rue et puis ça empire. Vous avez 30% des personnes qui sont sorties de l'aide sociale à l'enfance. Vous en avez 70% qui sont alcooliques, 13% qui sont drogués, 25% qui sont sortants de prison, 50% de migrants. Donc vous voyez que quand vous faites le total, vous êtes à beaucoup plus de 100%. Donc les gens qui sont dans la rue sont des gens qui cumulent. Bien sûr, dans la rue, on a froid. À Paris, il y a très peu de gens qui ont faim dans la rue. Hein. les Parisiens sont généreux, les Franciliens, parce qu'il y a beaucoup de Franciliens qui passent à Paris, sont généreux. Parfois trop de notre point de vue, parce qu'il y a des gens qui ont tellement qu'ils disent bah, ça ne sert à rien, je bouge. Bon, j'ai tout. Mais en même temps, j'ai du mal à lutter contre ça. Vous voyez, l'alcool, par exemple, la drogue, il y a une dépendance qui vient à un moment et on est dans une dépendance qui rentre et on est dans une addiction de maladie. L'alcool, même chose, hein, il y a une dépendance physiologique qui s'inscrit, qui s'installe par rapport à l'alcool et on a une dépendance. Et puis il y a des pathologies comme la décorporalisation, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui sont spécifiques à la rue. Les malades psy, on a une politique de santé mentale qui fait qu'on accompagne les malades en milieu ouvert. Mais quand le milieu ouvert ne les accueille pas dans leur quotidien, donc quand il n'y a pas de famille, pas de copains, pas d'amis, ils se retrouvent à la rue. Et s'ils sont dangereux ni pour eux, ni pour les autres, les psychiatres les laissent dans la rue et ne les mettent pas dans l'hôpital. Et l'aide sociale à l'enfance, voilà, beaucoup. Moi, je pense à Christian. Voilà. Il était orphelin à 12 ans et placé, séparé de ses frères et sœurs, séparé de son jumeau. Après, il a travaillé, il était heureux dans sa famille d'accueil, 10 ans de travail et après, chômage et rue depuis 20 ans. Et il délaisse complètement son corps. La prostitution, c'est 4 souffrances principales. Alors, peut-être dire, pour corriger un certain nombre d'images qui peuvent être colportées par les médias, on a 3, les personnes qu'on rencontre en prostitution nous disent 3, se classent dans 3 familles différentes. Il y a celles qui disent j'ai choisi la prostitution, je suis content d'y être. C'est ce qu'elles nous disent aujourd'hui. Certaines reviennent 10 ans après en disant non, c'était pas vrai, j'étais pas content, mais on disait que. Hein. Mais bon, il y en a qui disent qu'ils sont contentes. Il y a celles qui disent c'est un passage et je souhaite en sortir, et je vais m'en sortir. Puis il y a celles qui disent c'est pas un passage, j'y suis, j'y vais y rester toute ma vie. Et même, vous voyez, je pense à Alexis qui se fait appeler Chantal, qui est travesti, et qui dit de manière, ma mère était prostituée, je ne sais pas ce que je ferais d'autre. Hein. C'est vraiment une transmission. Ces gens-là vivent 4 souffrances particulières. La première, c'est la misère économique jusqu'à la fin. Aujourd'hui, en France, vous avez 90% des personnes prostituées qui sont étrangères. Donc 20% d'hommes, 80% de femmes. Et qui sont étrangers de pays... alors certes, beaucoup sont choisis après par les réseaux, mais le réseau, il choisit les orphelines qui ont des frères et sœurs à charge, ils choisissent les personnes les plus faibles du groupe. En Équateur, il y a des organisateurs qui proposent à des villages pauvres de désigner 2 ou 3 personnes, on les envoie en Europe, ils vont faire vivre le village. Et puis ils organisent les transformations nécessaires pour avoir les travestis ou les transsexuels du Bois de Boulogne. Mais donc ça veut dire qu'il y a une misère économique qui est très forte, à tel point que les gens osent faire ça. La contrainte jusqu'à la violence des proxénètes et aussi des clients. Il n'est pas rare qu'on trouve des personnes qui ont reçu des coups. Qu'elles soient mises sous drogue par les proxénètes pour les obliger à aller se prostituer. Des coups de lame de rasoir aussi, personne, 26 coups de lame de rasoir dans le ventre. Hein. La pratique des proxénètes aussi, c'est le dressage, un mot horrible, hein, mais j'utilise parce que c'est celui qu'ils utilisent. L'idée du dressage, c'est de vous faire suivre un parcours qui est tellement horrible que vous n'avez plus envie de le suivre. Et donc, on vous promet que vous le resuivrez si vous essayez de partir et de sortir. troisième souffrance des prostituées, c'est toutes les addictions. Addiction à l'alcool, addiction à la drogue, soit parce que, alors là aussi, hein, il y a une espèce d'enfer. Bon, il y a certaines personnes droguées qui vont se prostituer pour se payer la drogue, mais il y en a d'autres qui sont obligées de se prostituer, qui pour ça se droguent. Et puis elles deviennent addictes, donc elles ont besoin de se prostituer pour se droguer. On est dans un cercle vicieux terrible, donc avec une souffrance qui n'est pas uniquement une souffrance corporelle, mais qui est une souffrance existentielle. J'ai du mal, moi, dans les personnes que je rencontre, à distinguer la souffrance corporelle, la souffrance existentielle, la souffrance spirituelle même. Souffrance spirituelle, parce que j'ai oublié de dire dans les contraintes des proxénètes nigérians, les femmes qui passent sont juju, isées. Juju, c'est le nom pour dire qu'elles sont ensorcelées, avec des rites qu'elles suivent avant de quitter le Nigeria pour être envoyées en France. Vous avez aussi une addiction à la prostitution. Alors c'est un phénomène qu'un psychiatre a très bien décrit, mais il se passe toutes les choses dans le cerveau qui fait que si vous arrêtez la prostitution, la première chose que vous avez envie de faire, c'est d'y retourner, parce que ça met plein de désordres dans votre corps. Et puis, dernière souffrance, c'est les histoires de vie. Les viols, les incestes, les problèmes d'identité. Pour vous donner un exemple, Katharina, 45 ans, qui est en fait un homme colombien au départ, et qui nous a expliqué qu'à 5 ans, il avait été violé par son oncle, et depuis, il n'est jamais sorti du sexe. Et il a vécu du sexe dans le sexe, depuis toujours. Ou bien de Kim, qui jusqu'à 16 ans était homme, disait mais j'ai envie de devenir femme, mais se disait c'est pas juste, devant Dieu ce n'est pas juste, il faut pas que je devienne femme, et qui un jour, pour une raison qu'il nous a jamais expliquée, a été pris par un réseau et aujourd'hui prostitué transsexuel au Val de Boulogne. Une gentillesse incroyable. Bon, du reste, Katharina aussi. Alors, quelle rencontre on vit avec ces personnes? Donc, le principe de la tournée, donc on tourne deux par deux, parce qu'on est envoyé par la paroisse, par le Christ, hein, par la communauté, pour aller rencontrer les personnes, et on y va à main nue, c'est-à-dire sans rien. Sans rien, ça peut être étonnant, mais en fait, ça permet de rencontrer les personnes, d'avoir une rencontre de personne à personne, de ne pas intercaler un café dans la relation, une pièce ou autre chose. Je me souviens d'Erika qui nous dit, j'ai commencé, donc moi pour ma part j'ai tourné, mon travail de directeur général, le père a dit que je dirais ce que je faisais, le directeur général d'une association de 50 salariés, 250 bénévoles, c'est un boulot de directeur de PME, hein, très ancien. Au lieu d'aller chercher des clients, je vais chercher des subventions et des donateurs, mais c'est la même chose. Et je fais une tournée par semaine. Pendant 3 ans, j'ai fait auprès des sans-abri, et depuis 3 ans et demi, je fais auprès des trans du Bois-de-Boulogne. Et alors, pourquoi est-ce que j'étais en train de dire ça? Je ne sais plus. Donc, à main nue, on est sans rien, et voilà, on doit accepter d'être pauvre et de ne pas savoir comment rencontrer la personne. Et cette rencontre nous met inévitablement dans une situation d'égalité, parce qu'on ne sait pas très bien comment faire, et voilà. Et Erika, dans une tournée, elle disait, vous venez, à quoi ça sert ce que vous faites? Vous venez mater les trans, hein, bon, regardez les, vous venez nous regarder, quoi, hein, nos yeux, nos... Et je dis, non, on vient pas, on vient seulement pour vous dire bonjour, et vous dire que vous méritez d'être rencontrés. Il dit, ça sert à rien. Voilà. Bon, ça sert à rien. Bon, ben, on continue. Et puis, Erika, on ne l'a pas vu depuis 6 mois, elle a dû partir ailleurs. Et puis, il y en a d'autres qui nous ouvrent la porte de leur voiture ou qui quittent leur forêt de bois pour parler avec nous à chaque fois. Dans la fidélité, c'est-à-dire qu'on nous passe ces mêmes binômes qui tournent toutes les semaines à la même heure, sur le même trajet. Et donc, voilà, on est comme la vague qui revient sans cesse. Et il y a des personnes qui vont nous rencontrer, qui vont ouvrir la porte tout de suite, puis il y en a d'autres qui vont mettre plusieurs mois, voire plusieurs années avant de nous ouvrir la porte. Il y a une femme qui, au bout de 12 ans de tournée, a eu des captifs, après avoir vu... Voilà, les bidons m'ont changé sur les 12 ans, mais elle dit ce soir, je suis prête, aidez-moi à sortir. Je serai peut-être plus prête la semaine prochaine. Donc dans ce cas-là, on arrête la tournée rue, puis on voit ce qu'on fait. Inconditionnel, c'est-à-dire que inconditionnel, on continue, on n'a pas de projet pour les personnes. C'est Patrick Giraud s'y tenait beaucoup. Si ces personnes ont une dignité, elles sont capables d'avoir un projet pour elles-mêmes. Si elles ont été rejetées par la société, ou si elles se sont exclues de la société, c'est que le projet que proposait la société n'est pas bon. Et sinon, on propose un projet, ce sera forcément un projet de réintégration sociale, donc notre projet de société qui n'est pas le bon. Donc il faut prendre le temps de les écouter, de les accompagner et de laisser le projet naître. Et puis, dernier point, c'est d'oser la dimension spirituelle, de rencontrer les personnes dans toutes leurs dimensions. Vous voyez, je vous parlais de Katharina tout à l'heure. Un jour, on lui dit, la semaine prochaine, on ne sera pas là parce que le soir, on tourne à trois en camion, pas à pied. Et elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? La semaine prochaine, on sera à Paray-le-Monial. Mais c'est quoi Paray-le-Monial? Donc on lui explique Paray-le-Monial, cité du cœur de Jésus, etc. Et elle dit, je peux venir avec vous? Elle dit, ouais, tu peux venir avec nous. Elle dit, mais c'est quand exactement? Ah non, je peux pas parce que j'ai ma mère, etc. Et donc on lui dit, mais si tu veux, on peut prier pour toi. Et à ce moment-là, elle lui dit, mais à ce moment-là, vous ne priez pas pour Katharina, vous priez pour Rames. Rames, c'était son prénom de baptême et son nom d'homme. Et vous voyez que à un moment où on s'y attendait pas, quoi, elle nous révèle quelque chose de fort et il y a une dimension spirituelle de cette personne qui apparaît fortement. Alors, quelle expérience on fait dans le rencontre? Alors, j'ai pointé un certain nombre de choses. Alors, je vous annonce pas le nom parce que si je suis trop bavard, il faudra que je raccourcisse. Première expérience, c'est l'expérience de l'appréhension, de la peur de la rencontre, la peur de rencontrer la douleur, la peur de rencontrer la non-normalité. Quand j'ai commencé à tourner auprès des personnes trans, en fait, j'avais dit aux équipes que vous me trouvez une tournée prostitution et puis j'irai. Et puis ils m'ont choisi celle des trans et j'avais pas envie parce que. Quoi, moi, les trans, ça me donne des boutons et ça me fait hérisser le poil et voilà. Mais comme j'étais directeur, je ne pouvais pas dire non. Donc je suis monté dans le camion et puis on a fait la prière. J'ai dit, Seigneur, écoute, je te lâche tout. Et puis là, il y a un petit miracle qui se passe. Quand les personnes montent dans le camion, et pourtant les trans, hein, ils sont plutôt démonstratifs, hein, c'est petite tenue, grosse prothèse mammaire, c'est du spectacle. Il y a une grâce qui fait qu'on regarde les personnes dans les yeux, qu'on voit, et puis qu'on découvre les personnes. Et puis on a des personnes qui en face de nous se comportent comme des personnes, parce qu'on les regarde comme des personnes et pas comme des objets. Hein. Et cette appréhension, quoi, voilà, elle tombe, mais je pense que face à la douleur, il y a quelque chose d'assez naturel, ou face à la normalité, d'avoir peur de la rencontre. Hein. Après, des sans-abri, il y a la même peur, hein, peur de rencontrer quelqu'un, peur de ce qu'il va nous demander quelque chose, peur qu'il nous envahisse avec sa souffrance. Et c'est la même chose, ça tombe parce qu'on les reconnaît comme personne, et quand on vient avec rien, on leur dit pas c'est ton corps qui m'intéresse, on lui dit c'est ta personne qui m'intéresse. Alors le corps est toujours le véhicule, hein, parce qu'on est dans un corps. Deuxième expérience qu'on fait, c'est l'expérience de notre fragilité. C'est très fréquent. Je vois ça, c'est arrivé dernièrement à ma responsable des ressources humaines. Mais ça arrive régulièrement, surtout à des femmes, quand elles disent « bon, ok, je vais aller tourner en prostitution ». Et puis, deux, trois semaines après, là, ma responsable ressources humaines, au bout de trois semaines, elle est arrivée en disant « Thierry, je suis très embêté, il va peut-être falloir que tu arrêtes ma période d'essai, je ne peux pas tourner en prostitution. Physiquement, c'est trop dur pour moi ». Et je lui dis, bah, écoute, c'est pas grave, tu vas aller tourner auprès des sans-abri. Donc elle tourne maintenant auprès des sans-abri. Mais je vois, c'est pas la première hein, qui me témoigne de ça. Les femmes, quand elles rencontrent les personnes en prostitution, est-ce que c'est une fusion, une compassion, une communion, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passe, qui font qu'elles ressentent dans leur corps les violences que suivent les femmes dans leur corps. Et ça devient invivable pour elles. Elles n'en dorment pas, elles en font des cauchemars. Et même une de mes collaboratrices qui est restée en prostitution, ses règles ont été déréglées. C'est peut-être très concret ce que je vous dis, mais il y a quelque chose de cette fragilité qu'on touche. On touche la fragilité de l'autre, mais ça nous renvoie à notre propre fragilité qu'il faut accepter en disant je peux pas. Ou pour l'autre Virginie, c'est deux Virginie là dont je vous parle. L'autre Virginie, elle a fait un travail pour pouvoir continuer parce qu'elle était. Mais elle a fait un travail avec un psy pour pouvoir gérer cette situation-là particulière. Et cette fragilité, ça nous rappelle que finalement seul le Seigneur sauve et que on est face à un mystère hein, de personne, un mystère de la douleur. Pourquoi la douleur est là? Mystère de la liberté, pourquoi les personnes qui sont libres restent dans cet enfer-là, et que voilà, on est là, on tend la main, et la main on nous la prend, pas forcément comme on l'attend. Mais in fine, c'est le Seigneur qui s'ouvre. Troisième expérience. Expérience de voir des personnes qui sont décorporalisées. Alors ça c'est très spécial. Je me souviens de Josiane. Donc Josiane c'est une personne prostituée qui est aujourd'hui sortie de la prostitution et qui travaille maintenant dans la paroisse. Il reste il y a un paroissien qui s'en était ému et qui a écrit au diocèse et à l'évêque quoi c'était dangereux. Mais Josiane travaille toujours dans la paroisse. Donc Josiane, un soir, elle avait, comme beaucoup, les personnes en prostitution ont leur vrai nom et un nom de bois. Ou un nom de prostitution. Et donc, elle se fait. Son nom d'étiquette, elle avait marqué les deux, Josiane et Joël. Et je lui dis, mais tu es une ou tu es deux? Elle me dit, mais je suis qu'une. Puis elle réfléchit et elle me dit, ah non, Thierry, en fait, sauf au bois, je suis deux pour me protéger. Donc, c'est une situation que nous évoquent très souvent les personnes en prostitution, c'est que quand elles sont en situation de prostitution, elles mettent leur corps à côté et leur corps est un objet et ce n'est plus elles. Ça peut provoquer un certain nombre de désordres dans la tête hein, et des situations pas très confortables. Josiane a priori géré à peu près bien, mais pour d'autres c'est quelque chose de très très violent. Vous avez une autre expérience qui est proche de cette décorporalisation, qui est un petit peu différente, mais c'est quand une femme prostituée se retrouve enceinte. Elle vient nous voir parce qu'elle nous aime bien et elle vient nous demander de l'accompagner pour un IVG. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a un comité d'éthique qui a travaillé sur le sujet pour voir comment est-ce qu'on pouvait répondre de manière pertinente à cette situation. Et donc on fait des choses que la loi veut nous interdire de faire, c'est qu'on pousse les personnes à réfléchir. Mais après, dans leur réflexion, elles décident d'avorter ou de garder leur enfant. Mais on voit bien que le corps étant devenu dans leur esprit un outil d'activité prostitutionnelle, je veux pas dire travail, hein. Le bébé qui vient, il gêne le proxénète, il gêne tout le monde. Donc il faut s'en séparer. Et il y a tout un travail. Alors donc on a nos équipes, quand les personnes qui reçoivent ces personnes-là sont formées pour essayer de les aider à prendre la distance et à réfléchir. Et très souvent en fait elles ont de fait, beaucoup ont envie de garder leur enfant, mais elles ont peur des proxénètes. Alors c'est facile quand elles sont mineures, et il y a de plus en plus de mineurs en Nigeria, dans la prostitution, parce qu'à ce moment-là on peut les sortir immédiatement de la prostitution. Depuis qu'il y a la multiplication des mineurs, on a mis en place un travail spécifique là-dessus. Depuis le début de quoi, sur l'année dernière, sur les 8 premiers mois de l'année, j'ai pas le chiffre, les derniers chiffres, on a sorti 25 mineurs de la prostitution comme ça, dont plusieurs qui étaient enceintes. Mais vous voyez, il y a à ce moment-là quelque chose qui est difficile. Et puis, comme je vous disais, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a une femme, c'est Joy, qui avait décidé finalement d'avorter. Et on lui avait proposé de rencontrer un prêtre. Elle avait refusé. Et le lendemain de l'avortement, elle nous appelle en disant « Je veux voir un prêtre ». Et les femmes nigérianes qu'on connaît, elles sont évangéliques et à fond, hein. D'accord. Et alors là, la personne qui l'accueille lui donne rendez-vous pour le conduire au prêtre, donc aller voir le prêtre de Sainte-Rita, donc qui est dans le quartier de Pigalle et qui connaît bien tous ces sujets-là, et où on a une antenne. Et plutôt que d'aller directement au presbytère, elle l'a fait passer dans l'église. Et elle passe dans l'église de la Trinité, là, pas de Sainte-Rita, et il y a une chapelle derrière le verre avec l'Eucharistie, le Saint-Sacrement exposé. Et la Nigériane, qui n'a donc jamais vu le Saint-Sacrement exposé en tant qu'évangélique, elle dit « C'est quoi ça ?» Elle lui explique « C'est Jésus ». Et donc elle dit « Je veux y aller ». Et du coup, Aurélie, qui l'accompagnait, téléphone à... au prêtre en disant « Écoute, elle préfère voir Jésus d'abord. » Elle est restée 20 minutes à l'adoration. Et après, elle est allée voir le prêtre. Et vous voyez, c'est très mystérieux, parce qu'on aurait préféré qu'elle garde son enfant. Mais là, il y a eu un chemin, et Jésus est venu vient la chercher dans ce dilemme qu'elle a avec son corps. Décorporalisation qu'on connaît aussi avec les gens de la rue luttent contre la douleur en éloignant le corps, et donc on peut voir des gens qui ont des blessures profondes et qui sont insensibles à ces blessures. Je me souviens de quelqu'un qui avait des dents dans un état terrible, un jeune, une rage de dents terrible, et j'ai dit « Mais pourquoi tu te fais pas soigner ?» De toute manière, ça va finir par tomber, et puis c'est bon, hein. Quand elle sera bien foutue, je l'arracherai. Et j'ai dit, mais attends, tu peux te faire aider. Il y a des situations, et en plus, t'es en situation régulière ou irrégulière. Non, je suis en situation régulière, il n'y a pas de souci. Il dit, mais cette société m'a rejeté, alors je refuse toute aide de cette société. Et donc ce corps, il était en train de crier une injustice profonde. Alors quatrième expérience quand on approche de la douleur, l'impuissance. Je me dis que j'allais vous parler de... Je ne vais pas vous parler des captifs, je vais vous parler de ma fille. Donc on a une fille, Pia, qui est décédée il y a bientôt 7 ans, d'une tumeur au cerveau. Elle avait 20 ans. Et donc la dernière semaine, elle était... les médecins avaient capitulé. La tumeur grossissait trop vite, et plus vite que tous les traitements. Et donc on était tous ensemble dans sa chambre, là. Donc mes 6 autres enfants, ma femme et moi, on était dans la chambre, et on a passé une semaine quasiment, pas toutes les nuits, mais il y a toujours eu quelqu'un autour d'elle, mais on a passé au moins 3 nuits à 9, à 8 autour d'elle dans la chambre. Et on était là, mais complètement impuissants. Et quand on est des parents, on veut... on est prêt à tout, quoi. On dit Seigneur, prends-moi sa place, quoi, tout. Maintenant, quoi, voilà. Et on peut rien faire. Rien. Et puis là, les médecins, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, il y a ce sentiment d'impuissance terrible. Et la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de lui donner la main. Donc, pendant une semaine, il y a toujours eu quelqu'un qui lui a tenu la main jusqu'au moment où elle a rendu son dernier souffle. Et lors de la messe d'enterrement, on a réalisé un truc, en fait, c'est qu'on croyait l'accompagner, et en fait, c'est elle qui nous a tiré vers le ciel. Parce que lors de la messe, on était au ciel. On pleurait, mais on était au ciel. Et en fait, elle nous a fait faire tout un chemin, toute une expérience. Et je réalise que ça manque. En fait, il y a une distance entre la croix et le pied de la croix. Et que il y a la souffrance de Jésus sur la croix, il y a la souffrance de Marie qui est au pied de la croix. C'est pas la même. Et on ne choisit pas sa place. Cinquième expérience. J'ai mis l'expérience de la violence et l'expérience du baiser. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, en prostitution notamment, la souffrance, elle vient d'une violence essentielle. Et elle peut ressortir sous forme de violence ou de douceur. Et je pense à Luigi. Luigi, pour vous dire sa violence, la dernière fois qu'il a été arrêté par les flics, il a cassé la gueule des quatre flics, il a foutu et il a cassé la bagnole. Voilà. Et quelques temps après cet exploit, il est arrivé chez nous, à l'antenne, et il en voulait au responsable d'antenne qui n'avait pas obtenu ce qu'il voulait qu'il obtienne. Et donc, il a levé la main sur le responsable d'antenne, comme ça. Ça doit être le plus zen, ou le deuxième plus zen de tous les gens qui travaillent au captif. Il lui a dit, écoute, tu peux taper, mais je pense pas que ça servira à grand chose. Et donc il a enlevé sa main. Ça n'empêche que le soir il est revenu, puis il est venu, quand on était au camion dans le bois, il a fait des menaces, il a continué à faire les choses, et à être très, très menaçant. Et j'en parlais avec notre aumônier, le père Emmanuel Fab, et Emmanuel disait en fait, mais quelle est la souffrance de cet homme pour être comme ça? Et en fait, quand c'est ce qu'on apprend en fait au contact de la rue, c'est que quand la violence arrive, c'est que il y a une souffrance intérieure. Qui peut être une souffrance du corps, mais aussi une souffrance intérieure telle qu'elle explose. Et dans notre centre d'hébergement à Valgiros, elle explose quasiment systématiquement dans les 2 mois qui suivent l'entrée. Et on a travaillé avec quelqu'un qui nous a aidé à bien comprendre ça, parce qu'au début on se disait on fait des conneries, qu'est-ce qu'il fait, qu'on n'a pas. Il dit non, vous bossez bien, c'est-à-dire que si les gens sortent, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en vous. Et il nous a expliqué, en fait, quand on a une souffrance qui est trop forte, on n'aime pas souffrir, donc on fait une boule et puis on le met dans un coin. Et puis, on se repose, quand on arrive à Vagiro, c'est un lieu où on n'a plus besoin de lutter contre pour survivre, on se repose, on a des gens qui sont bienveillants. Et du coup, ça ressort. Et quand ça ressort, ça fait ça fait mal et ça peut faire très mal. C'est-à-dire que je me souviens d'un gars qui a convoqué le bénévole qui dormait dans la chambre à côté de lui et qui s'est scarifié devant lui, hein, donc tout le corps. Bon, je vous raconte des choses un peu extrêmes, là, c'est pas le quotidien, hein, rassurez-vous. Non, on n'est pas. C'est le danger là de vous parler comme ça. Et en fait, il avait quelque chose à dire, hein, qui a été très long à sortir. En fait, ça s'est déclenché juste après qu'il ait recommencé à travailler. Et en fait, c'est dans le milieu du travail où il a revécu des souvenirs d'enfance qui ont été difficiles à vivre. Mais ça faisait partie du processus de guérison. Donc, approcher la douleur et le corps douloureux, ça veut dire aussi beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, beaucoup de présence. Et je reprends une phrase du père Daucher qui s'occupe des enfants des rues à Anact et Enka. On ne peut pas aimer les pauvres en passant. Ça prend forcément du temps. Et l'accompagnement de la douleur, c'est dans le temps. Deuxième expérience que me racontait le père Mathieu Villemot, qui est un vicaire à Saint-Honoré-des-Laux et qui tourne avec nous dans la rue. Alors ils ont raconté plusieurs expériences, mais je vous en raconter une là. Il tournait à l'étoile et là il y a une femme qui était qui avait la tête complètement tuméfiée, musulmane, donc qui était en prostitution. Donc a priori elle avait passé un seul quart d'heure avec son proxénète, et quand elle a vu Mathieu arriver et qu'elle a vu sa croix, elle est tombée dans ses bras en pleurant, en disant « Dieu m'aime-t-il, m'aime donc encore assez pour m'envoyer un prêtre ?» Et alors Mathieu, il pleurait en racontant ça, parce que qu'une musulmane lui renvoie cette gratification, cette bénédiction. Et je vois qu'en fait, là je vous raconte cette histoire qui est un peu forte, mais j'en ai plein d'autres à vous raconter. Je pourrais vous raconter Maquero. Maquero, c'était une femme qui était complètement folle dans sa tête, qui errait dans Paris, surtout gare Saint-Lazare et gare de Lyon. Et je l'ai croisée régulièrement quand je tournais gare Saint-Lazare. Et un jour, je la croise près de Saint-Séverin, donc dans le cœur de Paris, à un autre endroit. Elle était assise au milieu de la rue, elle mendiait. Et donc, je m'agenouille devant elle et je lui dis « Bonjour, Maquero ». Elle me regarde étonnée. Et puis, alors, j'ai vu des étoiles dans ses yeux. Elle m'a reconnu. Et à ce moment-là, elle m'a pris avec ses bras et elle m'a embrassé. Alors que jamais elle m'avait embrassé, que jamais elle était dans ce genre de choses-là, et on s'est fait engueuler un certain nombre de fois par elle. Il y avait, mais voilà, ça c'est après à l'avoir vu toutes les semaines pendant 3 ans. Un jour, je la rencontre par hasard et il y a quelque chose qui se passe. C'est pas parce qu'il y a la douleur que l'espace de communication n'est pas là. Et on ne sait pas quand ça va sortir. Et forcément, on est confronté la même situation que Jésus avec les deux larrons, quoi. Il y a celui qui l'invective et il y a celui qui dit mais il ne mérite pas ça, quoi. On a forcément ces deux situations-là. Et c'est pas parce que ça se passe mal avec quelqu'un qu'on fait mal. Dernière expérience. On vit aussi des expériences de rédemption. Alors je vais vous raconter la plus spectaculaire que j'ai vue depuis 6 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Au bord du monde? Non? Ben, si vous avez l'occasion de voir ce film, regardez-le. C'est Klaus Drexel, qui est un cinéaste, poète, un peu fou, qui a trouvé un producteur un peu fou, et qu'on fait un film Et il est allé rencontrer pendant une année des personnes dans la rue à Paris, avec une qualité d'image exceptionnelle. Il n'y a aucun commentaire off, et c'est que la parole des gens de la rue. Quand ce film-là, Au Captif, nous a beaucoup réjouis, parce que ça dit beaucoup de choses de ce que nous, on vit dans la rencontre des personnes de la rue. Et dans ce film-là, il y a une femme qui s'appelle Jenny, qui est devant l'Arc de Triomphe, avec en plus le drapeau français dessous. Ils ont mis un bol incroyable ce jour-là. Et Jenny, elle est complètement allumée. Elle raconte des histoires sans queue ni tête. On ne sait pas ce qu'il en est. Et en fait, il se trouve que cette femme, Jenny, elle est accompagnée par l'accueil social de Saint-Ferdinand-des-Ternes, qui est à côté. Qu'elle a été hébergée par Hiver Solidaire, donc elle dormait la nuit, l'hiver, dans les locaux de Saint-Ferdinand-des-Ternes. Que du coup, les gens de Saint-Ferdinand-des-Ternes l'ont amenée à certaines activités des captifs. Donc on la connaît. Et puis un jour, elle a été butée par un vélomoteur. Il y a un vélomoteur qui lui est rentré dedans. Elle a été hospitalisée. Et puis elle a sorti, elle revient avec sa Saint-Ferdinand des Ternes. Et là, ils vont, avec un certain nombre d'autres personnes de la rue, un pèlerinage spécial qu'on faisait au Mont-Saint-Michel. Et puis au Mont-Saint-Michel, on fait le soir, ceux qui étaient là ou j'y étais pas, font un partage sur qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui, quoi. Et voilà que Jenny dit une chose intelligible. Et il y a plusieurs personnes qui étaient là qui l'ont vu, mais nous, ils disaient, mais quand on a entendu dire ces choses intelligibles, on s'est mis à pleurer. Et depuis, en fait, elle a retrouvé une raison sensée. Elle a retrouvé sa famille et elle chemine pour être baptisée. Et en fait, elle s'appelle Myriam. Le père Schwab, qui était avant le curé Saint-Ferdinand-des-Ternes, disait, mais lui, il dit, c'est léger azénien, quoi, le miracle auquel il pensait qu'il ne verrait jamais ce genre de choses-là dans sa vie. Mais ben, si, voilà, c'est possible. Et après, je pourrais vous raconter aussi beaucoup de résurrections, notamment des sorties d'alcool qui sont incroyables. Et en même temps, il y a des sorties d'alcool qui sont des vrais chemins de croix où on tombe plus que trois fois avant d'arriver à se remettre complètement debout. Mais voilà, il y a des expériences de rédemption et Dieu vient parler au cœur de la souffrance. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en conclusion de mon petit partage d'expérience, c'est que quand on approche le corps souffrant, on fait, je sais pas très bien comment font les autres, hein, qui ne sont pas des associations confessionnelles ou chrétiennes, mais ce qui nous éclaire, nous, c'est qu'on fait une expérience du Christ souffrant, avec beaucoup de pauvreté, et que l'espérance qu'on a, c'est la résurrection. Donc on est très proche du mystère pascal. Et pour terminer, et cela passe de manière très mystérieuse. Donc à Fratello, au pèlerinage des personnes socialement exclues à Rome, au début novembre, à la fin de l'audience avec le pape, il y a des personnes de la rue qui ont prié pour le pape en mettant leurs mains sur les épaules du pape. Il y a une personne qui mettait sa tête sur son cœur. Et voilà, c'était un moment qu'on a tous vécu avec une très très grande intensité. Il y a Magique, qui est quelqu'un qui est venu avec nous et qui est musulman, et qui nous a dit de ce moment, j'ai vu comme le pape portait nos pauvretés. Je me dis que si Dieu pouvait faire que je m'agite, dis ça de tous les chrétiens qu'il rencontre.